Voilà, merci à Stéphane et Jérôme pour ces moments. Alors, je vous propose de lire ensemble un texte de la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. On va lire le chapitre 43. On ne va pas lire tout le chapitre, on va lire les 21 premiers versets. Donc, Ésaïe 43, à partir du verset 1er. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au Nord, donne, et au Sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Fais sortir le peuple aveugle qui pourtant a des yeux et les sourds qui pourtant ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. Lequel d'entre eux a révélé ces choses? Lesquels nous ont annoncé les premiers événements? Qu'ils présentent leurs témoins et se défendent, qu'on puisse écouter et dire « c'est vrai ». C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyiez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, aucun autre n'existera. C'est moi seul, qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel, que c'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer? Voici ce que dit l'Éternel, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais couler tous les fuyards, même les Babyloniens, sur leurs bateaux dont ils sont fiers. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever, ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Amen. Comme beaucoup de prophètes, Ésaïe, il n'a pas eu un ministère toujours très facile. Parce que, malheureusement, beaucoup des prophètes que Dieu a envoyés vers son peuple n'étaient pas là pour leur annoncer des choses agréables à entendre, mais souvent pour les remettre en question, les amener à se placer devant Dieu et à réaliser combien ils s'étaient détournés de Dieu. Mais au milieu de tous les messages parfois de condamnation qu'on trouve dans ce livre et dans beaucoup d'autres livres des prophètes de l'Ancien Testament, on trouve aussi des passages comme celui-là qui sont pleins d'espoir, qui parlent d'encouragement, qui parlent de restauration, de salut au milieu de l'adversité. Et ce qui a particulièrement retenu mon attention lorsque je lisais ce passage cette semaine, c'est le fait que, au milieu de ce message d'espoir là que Ésaïe nous donne, ce sur quoi il se focalise réellement, ce dont il nous parle le plus, c'est de Dieu. Ce qu'il nous révèle, c'est qui est Dieu au travers de qui il est, au travers de ce qu'il a fait, au travers de ce qu'il compte faire encore pour le peuple d'Israël. La raison pour laquelle Ésaïe insiste autant sur Dieu, elle est simple, elle se voit dans le verset 7, c'est lorsque Dieu dit « c'est tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait ». Ceux que j'ai créés pour ma gloire. C'est le but que Dieu a donné au peuple lorsqu'il a créé ce peuple d'Israël. Un peuple qui serve à proclamer sa gloire. Rendre gloire à Dieu, c'était vraiment le but initial de la création de Dieu dans son ensemble. Lorsque Dieu a tout créé, c'était pour lui rendre gloire, mais aussi, en particulier, c'est le but qu'il avait donné à son peuple. Et c'est aussi Le but ultime de tout ce qu'on a lu, quand on est arrivé au verset 21, justement, la conclusion de tout ça, c'est quoi ? C'est que le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Le peuple que Dieu s'est appelé, le peuple que Dieu s'est formé, il continuera à le louer, à l'adorer, à proclamer sa gloire. Et c'était valable au temps d'Israël, mais c'est aussi valable pour nous aujourd'hui, hein, parce que c'est notamment l'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 2, dans les versets 9 à 10, qui fait le parallèle avec nous et qui dit que ce peuple-là qui proclamera les louanges de Dieu, c'est nous aujourd'hui. Dans 1 Pierre 2, versets 9 et 10, il dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Là, Pierre ne s'adresse pas à Israël, mais à l'Église dans son ensemble. Vous qui n'étiez pas un peuple, qui vous étiez dispersés, qui étiez de toute tribu, de toute nation, aujourd'hui vous êtes un peuple, vous êtes le peuple de Dieu, ce peuple qui est appelé à louer et à glorifier Dieu. Alors, lorsque nous-mêmes nous essayons de parler de la Bible, de la foi à ceux qui nous entourent, lorsqu'on essaie d'évangéliser, souvent, il y a toutes sortes d'approches, toutes sortes de façons de le faire. On va pouvoir parler du salut, parler du paradis, de l'enfer, de la condamnation. On peut parler de ce que Dieu a fait pour nous, qui nous a guéris, qui nous a donné peut-être un travail, qui a exaucé toutes sortes de prières. On peut parler de notre expérience personnelle. Mais dans toutes ces approches, il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Ce n'est pas mettre l'accent sur nous. Ce n'est pas nous qui sommes importants dans tout ça. L'accent, il doit être mis sur Dieu. Et si on veut vraiment lui rendre gloire, comme c'est ce à quoi nous sommes appelés, eh bien c'est lui qui doit être au centre de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous disons. Tout le reste, ça tourne autour de lui, de qui il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fera. Évangéliser, en fait, c'est encourager les gens à tourner les regards vers Dieu pour contempler sa gloire. Paul l'a exprimé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, et notamment il y a ces versets dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, au verset 18, où Paul rappelle « Nous tous qui, sans voile sur le visage » alors là, en parlant du voile, il fait allusion à ce qu'avait vécu le peuple d'Israël avec Moïse, qui avait un voile sur le visage en redescendant de la montagne, parce que la gloire de Dieu rayonnait au travers de Moïse, rayonnait tellement que le peuple était focalisé sur lui, là, de voir ce visage qui brillait presque. Donc il avait un voile. Et là, Paul nous dit « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » C'est ça l'évangélisation, c'est apprendre aux gens à contempler la gloire de Dieu comme dans un miroir. Parce que nous ne pouvons pas la voir aujourd'hui dans toute sa perfection, dans toute sa grandeur, toute sa magnificence, c'est trop pour nous. Nous ne sommes pas capables de supporter tout ça, mais voilà, comme dans un miroir, parce qu'un miroir à l'époque, j'y ai fait allusion il n'y a pas si longtemps lors d'une introduction à la prière, ce miroir de l'époque n'était pas parfait. Ils avaient une qualité qui était moins bonne qu'aujourd'hui, et forcément quand on regardait quelque chose dans un miroir, on perdait une partie de l'image qui était reflétée. Et là, regarder la gloire de Dieu comme dans un miroir, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas la voir entièrement. Mais quand même, on cherche à en discerner le maximum. Et Paul, lorsqu'il nous dévoile et qui développe tout le message de l'évangile, et en particulier ce message de la grâce qui lui tient particulièrement à cœur, il insiste sur une différence fondamentale qu'il y a entre la loi, tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament, et la grâce, ce que nous vivons aujourd'hui avec Christ. C'est que la loi, elle focalisait nos regards sur nous-mêmes, sur nos fautes, sur notre incapacité à l'appliquer, à la respecter entièrement. Alors que la grâce, elle focalise nos yeux sur Christ. Elle focalise nos yeux sur la gloire de ce qu'il a accompli pour nous à la croix. C'est une différence fondamentale. On ne regarde plus la même chose. Et les effets ne sont pas les mêmes. Dans le texte d'Ésaïe qu'on a lu, même si le peuple d'Israël, le nom d'Israël est mentionné abondamment, et notamment parce que c'est les destinataires du message, c'est à eux que s'adresse Ésaïe, ben on voit quand même que le cœur du message, ça reste le Seigneur lui-même. Tout dans ce passage nous parle de lui. Et tout nous encourage à tourner les regards vers lui, aussi bien les versets qui nous décrivent qui il est, que ceux qui nous rappellent son œuvre. L'œuvre de Dieu, les œuvres que Dieu accomplit, ça n'est que la concrétisation de sa nature. Il agit d'après ce qu'il est. De la même manière que nous nous sommes appelés dans le Nouveau Testament, si vous vous rappelez ces versets de l'épître de Jacques, c'est que nous sommes appelés à avoir des œuvres qui manifestent notre foi. Ce que nous faisons manifeste qui nous sommes à l'intérieur. De la même manière, les œuvres de Dieu témoignent de qui il est, témoignent de sa nature, de son essence. Et au travers du ministère de Christ, de ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous, nous pouvons voir que l'Évangile, c'est vraiment la manifestation concrète de cette gloire de Dieu. L'apôtre Pierre, encore une fois, lui, l'exprime d'une manière particulière dans sa première épître, au chapitre 1, dans les versets 10 à 12, où il parle de ce qui avait été annoncé pendant longtemps par les prophètes et qui s'est enfin concrétisé pour le peuple. Il dit « Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. » Le message de l'Évangile, c'est un message de gloire, le message de la gloire de Dieu, de la gloire de Christ. Il nous est dit que même les anges ont envie de plonger leur regard là-dedans, tellement c'est magnifique à contempler. Alors j'aimerais avec vous regarder un petit peu ce que ce texte nous dit de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut rappeler à notre cœur? Parce que je suis sûr que je ne vais rien vous apprendre de nouveau ce matin. Tout ce qu'on a lu, vous le savez déjà. Mais c'est bon de se le rappeler, de se rappeler à quel point Dieu est bon, glorieux, magnifique. Alors la première chose qui se distingue dans ce texte, c'est que Dieu est le seul véritable Dieu. Il se distingue de tout autre Dieu, toute autre divinité qu'on pourrait imaginer. Tous les autres dieux sont inventés, mais lui, il est le seul, il est le véritable. Il est celui qui est, c'est son nom même. D'ailleurs, lorsque Moïse discute avec l'Éternel dans le désert avant d'aller voir le peuple d'Israël et qu'il lui dit « Mais quel est ton nom ?» Quand je vais aller voir le peuple, je vais leur dire que je viens de la part de quel dieu? Parce que là, ils vivent en Égypte. L'Égypte, ils ont des dizaines, des centaines de dieux. Je ne sais pas combien il y en avait à l'époque dans leur mythologie, mais parmi tous ces dieux, moi, je vais arriver, je vais leur dire, je viens de la part d'un dieu, lequel? Bien, Dieu lui dit, je suis celui qui suis. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Et c'est ce que signifie son nom, là, dans ce texte. À chaque fois qu'il est dit l'Éternel, dans le texte original, c'est le nom Yahweh, ce nom que les Hébreux n'osaient même pas prononcer par respect pour Dieu. Et dans la concordance là, de Strong, ils le traduisent par « c'est celui qui est l'existant, celui qui est ». C'est l'existence même. C'est ça qu'il distingue de tout autre. Et son existence, elle n'a ni commencement ni fin. Il nous a précédés et puis il subsistera pour l'éternité. C'est pour ça qu'il dit cela au peuple, hein. Vous êtes mes témoins, et il dit, avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, aucun autre n'existera. C'est moi seul qui suis l'Éternel. C'est une chose sur laquelle Ésaïe insiste énormément, enfin, ou du moins, Dieu insiste énormément par la bouche du prophète Ésaïe. C'est même le commencement des 10 commandements. Vous vous rappelez comment ces 10 commandements, avant même de dire... Tu feras, tu ne feras pas, tu pourras faire ceci ou faire cela. Non, il dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, c'est moi, je suis le seul, l'unique. Et c'est le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ésaïe le dit là, je suis ce Dieu-là depuis le début. Il n'y a eu personne avant lui. Alors, c'est vrai que lorsque vous vous adressez à des personnes en dehors de l'Église, ce n'est pas toujours bien... accepter d'entendre ce message-là, de dire que Dieu est le seul, l'unique. Parce que ceux qui ont des croyances différentes n'ont pas envie d'entendre dire que leur Dieu à eux n'existe pas. Et puis même ceux qui ne croient en rien, ils viennent vous dire « Non mais fais preuve d'un peu d'humilité, là, c'est pas un peu arrogant de dire que c'est le tien qui existe et que les autres y sont inventés. Qu'est-ce que t'as de plus que les autres pour dire ça ?» Mais même si les gens ont du mal à l'entendre, et loin de nous la pensée de forcer les gens à croire la même chose que nous, bien sûr nous voulons les convaincre, nous voulons leur apprendre à découvrir qui est Dieu, mais nous ne pourrons pas les forcer. Ce n'est pas en imposant nos convictions que nous pourrons arriver à gagner qui que ce soit. Mais il n'empêche que ce message-là, on ne peut pas le cacher juste pour éviter de braquer ou de vexer les gens. Ce message-là, c'est la vérité. Dieu est le seul véritable Dieu. Ce Dieu-là, il nous a aussi dit que c'est le Créateur. Il était là avant même la création, et c'est parce qu'il était là le premier, avant toute autre chose, qu'il en est aussi l'auteur de cette création. C'est lui qui a tout créé. Vous vous rappelez ces tout premiers chapitres de la Bible, hein, le chapitre 1er, le chapitre 2 de la Genèse, qui nous raconte comment Dieu a créé toute chose. Mais on a plein d'autres textes qui nous le rappellent encore et encore que Dieu est le Créateur. Dans le psaume 90, au verset 2, il est dit « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Et s'il est le Créateur de toutes choses, ça implique aussi qu'il en est le Maître. C'est lui qui tient toute cette création-là entre ses mains, c'est lui qui en détient la destinée aussi. Le prophète Ésaïe, quelques chapitres auparavant, au chapitre 40 et au verset 12, dit « Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main ? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure ? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule ? Qui est au-dessus de tout ça pour pouvoir en avoir le contrôle ? Dieu, l'Éternel, est le seul qui tient la terre dans ses mains. » Ésaïe, dans les versets qu'on a lus, insiste non seulement sur le fait que notre Dieu est le Créateur de l'univers tout entier, mais aussi et surtout qu'il est le Créateur en particulier de ce peuple d'Israël auquel il s'adresse. Il le dit, il est appelé plusieurs fois, c'est le Créateur d'Israël. C'est celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. Vis-à-vis d'Israël, ce rôle, ça a une importance particulière parce que l'Éternel, c'est celui qui a formé ce peuple à partir de rien. Là. C'est celui qui a créé cette nation simplement au travers d'une promesse qu'il a faite à Abraham. Et puis qui ensuite a veillé sur cette famille là, au travers d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de tous ses fils. Et puis qui a veillé sur toute sa descendance pendant plusieurs siècles en Égypte. Pour enfin, au bout de 4 siècles d'esclavage, là, faire sortir ce peuple d'Israël qui était devenu une véritable nation. C'était plus simplement une famille là, toute seule au milieu de la Mésopotamie, de la Palestine. C'était devenu une nation à part entière, un peuple, le peuple de Dieu. Et ça nous montre aussi que, en tant que créateur d'Israël, Dieu a aimé son peuple. C'est lui qui lui a donné une destinée, c'est lui qui a pris soin de lui, c'est lui qui l'a protégé, qui l'a gardé, qui l'a délivré. C'est celui qui l'a aimé comme des parents aiment leur enfant. Et même encore plus que cela. L'amour de Dieu est bien au-delà du nôtre. Le texte, là, il le souligne à nombreuses reprises combien Dieu aime son peuple et qu'il est prêt à tout pour prendre soin de lui et pour le préserver. Et de la même manière, nous aussi aujourd'hui, même si nous ne sommes pas le peuple d'Israël, j'ai dit nous sommes le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a appelé à lui, et toutes les promesses que Dieu a faites au peuple d'Israël, elles s'appliquent à nous encore aujourd'hui. Dieu nous aime de ce même amour. Dieu a envie de prendre soin de nous, de nous garder, de nous bénir. Nous qui autrefois n'étions pas un peuple, aujourd'hui nous sommes ce peuple dont Dieu veut s'occuper. Nous sommes ce peuple que Dieu veut entourer de ses bras et protéger jour après jour. L'Éternel est celui qui nous a appelés, qui nous a unis, et il est celui qui a aussi un plan pour nous, pour notre futur. Un plan qui mérite qu'on se réjouisse, parce que les plans de Dieu sont toujours bons, sont toujours parfaits. C'est lorsque Dieu a créé toute chose, dans le chapitre 1 de la Genèse, à chaque fois il est dit que Dieu a regardé ce qu'il avait créé, et voici, c'était très bon. Et lorsque Dieu continue de créer encore aujourd'hui, c'est toujours aussi bon. Dieu ne fait pas des choses qui sont ratées. Dieu ne regarde pas les choses et dit non, cette fois-ci, ça n'a pas marché, je recommence. Non, bien, les hommes eux-mêmes se sont détournés de lui, mais ce que Dieu a créé à chaque fois, c'était bon, c'était parfait. Et là, il nous annonçait que Dieu va encore continuer son œuvre créatrice, là, mais ce qu'il va créer, c'est de la joie, c'est de la paix, c'est de la vie. Vous l'avez lu avec moi dans les derniers versets qu'on a lus, les versets 19, 20, c'est « Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Dieu, c'est celui qui envoie la vie là où il n'y a que la désolation. C'est celui qui transforme le désert en jardin fertile où tout va se mettre à pousser, à grandir. Un endroit où nous, on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse y avoir quoi que ce soit de vivant. Mais lorsque Dieu passe, la vie vient avec lui et transforme toute chose. Ensuite, Ésaïe insiste dans son texte sur le fait que l'Éternel est aussi le Tout-Puissant. Les promesses que Dieu fait, toutes ces promesses-là de restauration, de protection, ça n'aurait aucune valeur si Dieu n'était pas capable de les tenir. Parfois, c'est un conseil qu'on me donne, hein, ne pas faire de promesses que vous n'êtes pas capable de tenir. Dieu, lui, peut faire toutes les promesses qu'il veut parce qu'il a la puissance, la capacité pour accomplir tout ce qu'il dit. Rien n'est impossible à Dieu, et lorsque Dieu forme un plan, alors ce plan va s'accomplir, rien ne pourra s'y opposer. Vous l'avez lu avec moi, il dit « Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer ?» Et on le voit dans toutes les œuvres que Dieu a faites. Lorsqu'on lit le récit biblique depuis le début jusqu'à la fin, on voit que lorsque Dieu intervient, c'est toujours avec une puissance qui dépasse tout ce que les autres peuvent imaginer. Même lorsque les magiciens de l'Égypte ont essayé de reproduire les prodiges que Aaron avait fait devant Pharaon, là, en jetant son bâton qui s'était transformé en serpent, lorsqu'il avait mis la main dans son manteau et l'avait vu couvert de lèpre, puis guéri, voilà, les magiciens avaient essayé de copier ce que Dieu faisait. Mais il nous a dit qu'à un moment, ils n'arrivaient plus. Même lorsqu'ils ont jeté des bâtons, ils ont transformé en serpent, celui d'Aaron a dévoré tous les autres. Et lorsqu'ils ont essayé comme ça de copier, au bout d'un moment, ben Dieu n'a pas permis. Dieu, lui, était plus puissant que les mages de l'Égypte, plus puissant que tous ceux qui ont essayé de s'opposer à lui, plus puissant même que les puissances des ténèbres qui parfois ont essayé de détourner des hommes, des femmes en se faisant passer pour ce qu'ils n'étaient pas. On le voit dans le Nouveau Testament notamment avec Simon le magicien là, qui essayait d'impressionner le peuple avec toutes sortes de soi-disant miracles. Mais lorsque l'évangile de Christ a été proclamé, ben Simon il a été touché aussi. Et finalement, ça a mis un terme à sa carrière. Oui, la main de Dieu, elle est puissante. C'est lui qui a ouvert un chemin dans la mer, un passage dans l'eau puissante. Vous l'avez lu et on l'a chanté encore ce matin. C'est lorsque je dois traverser les eaux, là, toi, tu vas les ouvrir devant moi. Là où moi, je ne peux pas aller, toi, tu peux faire des choses extraordinaires. Et cette même puissance, c'est celle que Dieu a manifestée lorsque Christ est venu mourir pour nous à la croix et que Jésus-Christ est revenu à la vie le troisième jour. Paul le dit, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. La résurrection de Christ, c'est la preuve que Dieu est tout-puissant. C'est la preuve que Dieu a la capacité d'agir en notre faveur. Et c'est la preuve que Dieu a la capacité surtout de nous sauver. Parce que c'est la dernière chose que je voudrais noter avec vous, c'est que dans ce texte, Dieu est présenté comme l'unique sauveur et rédempteur du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, on l'a dit souvent, c'est un peuple qui a trahi Dieu, c'est un peuple qui s'est détourné de Dieu, c'est un peuple qui a souvent chuté, mais on n'est pas meilleur qu'eux. Et ce peuple-là, ce dont il avait besoin avant tout, c'était de salut. De la même manière que nous aujourd'hui, parce qu'à cause de notre péché, nous serions bien incapables de nous approcher d'un tel Dieu. Ce Dieu, c'est le Saint d'Israël, c'est le pur, le parfait. Celui dont la gloire est tellement grande que si nous nous approchions dans notre état de pécheur, nous serions frappés par cette gloire. Mais Dieu n'a pas voulu que son peuple soit comme ça rejeté pour l'éternité loin de lui. Là aussi, on l'a chanté tout à l'heure. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Dieu a voulu que le peuple ait une chance de retrouver cette communion avec lui, cette communion qui a été perdue lorsque Adam et Ève ont chuté dans le jardin d'Éden. Et pour ça, il a fallu que Dieu apporte son salut. Il y a tellement de versets dans tout ce qu'on a lu, je ne vais pas tous les relire pour ne pas être trop long, mais vous l'avez vu qu'il leur a dit « Je suis ton sauveur, ton unique sauveur ». Il a dit « J'ai donné l'Égypte à ta place, j'ai donné l'Éthiopie et Saba. Je t'ai racheté ». Racheté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a coûté quelque chose. Et pour nous, aujourd'hui, lorsque Dieu nous a rachetés, ce n'est pas l'Égypte qu'il a donné notre place, ce n'est pas l'Éthiopie ou Saba, c'est son propre fils. C'est Jésus-Christ qui est venu donner sa vie à la place de la nôtre. Le salut de son peuple, il a du prix aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il est non seulement un sauveur, mais aussi un rédempteur. Le rédempteur, c'est celui qui rachète. Il nous a rachetés, il a payé la rançon pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer de son emprise. C'est lui qui a supporté le poids de nos fautes à notre place. C'est le Fils de Dieu qui a été crucifié là sur cette croix à notre place. Alors, lorsque je lis tous ces versets là du prophète Ésaïe, c'est vrai que je suis encouragé de voir tout ce que Dieu peut faire pour moi. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce qu'il peut faire pour moi. Ce qui est important, c'est qui il est. C'est le fait qu'il peut le faire et qu'il veut le faire. Ce qui est important, c'est lui. Ésaïe s'est vraiment focalisé là pour attirer toute notre attention sur Dieu. Peu importe ce qu'il y a eu avant, il le dit d'ailleurs, arrêtez d'essayer de comprendre ce qu'il y a eu dans le passé. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous tourniez vos yeux vers votre avenir, vers le présent déjà. Dieu est là pour nous sauver. Dieu est là pour nous relever. Tournons les yeux vers lui et cherchons à contempler sa gloire. Ce qui est formidable, c'est que cette gloire de Dieu, c'est elle qui manifeste toute cette puissance. Et quels que soient nos désirs, quels que soient nos besoins, quels que soient nos attentes, nos espoirs, au final, j'ai envie de vous dire qu'il y a une seule et unique solution à toutes ces choses-là, c'est de se délecter de la gloire de Dieu. Que ce soit pour retrouver l'espoir, que ce soit pour surmonter le péché, que ce soit pour être délivré, pour découvrir quelle est la volonté de Dieu, pour nous en particulier, pour l'Église, pour le monde. Tout cela, on l'obtient lorsque on plonge nos regards dans la gloire de Dieu, lorsqu'on contemple là toute sa magnificence. Lorsqu'on fait cela, alors nous sommes transformés nous aussi, on l'a lu dans les paroles de l'apôtre Paul, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Cette gloire de Dieu, lorsqu'on l'admire, elle a un effet, elle produit un effet sur nos vies. Lorsqu'on a les regards plongés sur Christ, plongés sur Dieu, alors Dieu peut agir dans nos cœurs, Dieu peut nous transformer, Dieu peut nous conduire et nous amener plus loin. Et je me suis arrêté au verset 21, je n'ai pas été plus loin. Mais si vous voulez plus tard les lire, vous allez voir qu'il y a un avertissement derrière. Parce que justement, derrière, on voit que le peuple d'Israël, il a un peu méprisé le privilège qu'il avait là de connaître Dieu. Et les conséquences pour le peuple d'Israël, elles ont été terribles à chaque fois. Ça a été la déportation, ça a été les invasions, ça a été l'occupation par les nations étrangères. Alors nous ne soyons pas de ceux qui ne font aucun cas là, du Dieu de gloire. Au contraire, aspirons vraiment à contempler cette gloire, cette magnificence et à laisser l'expérience nous transformer. Amen. Oui, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être un peuple pour sa gloire. Et ce n'est que lorsque on s'attache à poursuivre ce but qu'on va réellement pouvoir s'épanouir, qu'on va pouvoir trouver le bonheur, qu'on va pouvoir trouver ce pour quoi nous sommes faits. Tant qu'on s'y oppose, forcément, on va être déchiré à l'intérieur. On va aller à l'encontre de ce pour quoi on est fait. Mais lorsqu'on réalise vraiment que c'est notre but et qu'on se met à chercher ce but, qu'on s'aligne avec le but, la volonté que Dieu a pour nous, alors là, tout rentre dans l'ordre. Le puzzle s'assemble là. Et puis d'un seul coup, cette gloire qu'on cherche à admirer carrément se manifester en nous. Amen. Seigneur, je te bénis parce que tu es le Dieu de gloire, c'est vrai. Tu es le Dieu glorieux d'éternité en éternité. Tu es celui qui est venu jusqu'à nous. Tu es celui qui t'est donné pour nous, Seigneur mon Dieu. Et à la croix, tu as manifesté cette gloire, Seigneur. Alors je te prie de nous aider, de susciter cette soif dans notre cœur pour chercher à contempler ta gloire, Seigneur mon Dieu. Chercher à admirer ta gloire. Oui, tu es glorieux, tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de tout autre Dieu. Toi, tu es le seul vrai, le véritable, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons nous délecter de cette gloire, Seigneur mon Dieu. Ouvre nos yeux, ouvre notre esprit pour admirer ta gloire, Seigneur. Oui, gloire à ton nom, Seigneur mon Dieu. Amen.